Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment central pour quiconque travaille avec l'info en source ouverte. Comment on transforme cette montagne de données brutes qu'on a collectées
Oui, cette masse d'infos.
en un renseignement qui soit clair, bien structuré et surtout vraiment utilisable. Pour ça, on s'appuie sur les enseignements d'un cours spécialisé, le MOOC OSINT-FR,
Tout à fait.
parce qu'on le sait bien, l'enquête OSINT, ça ne s'arrête pas juste à la collecte.
Non, loin de là.
Le vrai défi, c'est le livrable final, le fameux rapport. Il doit pouvoir parler à des gens très différents, un décideur pressé, quelqu'un qui n'y connaît rien en technique, parfois même un avocat, un juge.
Exactement, c'est crucial.
Du coup, la forme devient aussi importante que le fond, j'imagine.
Absolument. La manière dont on présente l'info est déterminante.
Alors, la question, c'est comment on fait ce passage de l'investigation, parfois un peu foisonnante, à un document qui raconte une histoire claire, qui pose une démonstration solide et qui aide à prendre une décision. C'est ça qu'on va essayer de
Ben,
décortiquer.
c'est tout l'enjeu. Et pour commencer, il faut parler de l'analyse. C'est vraiment le cœur du réacteur.
L'analyse, ok.
Sans ça, même si on a collecté des tonnes de données, ça ne vaut pas grand-chose. C'est là que la donnée brute devient du renseignement utile, qui a du sens. Et ça demande, bah, de la logique, de la méthode et cette capacité à faire des liens, à connecter les points.
D'accord, donc on a notre tas de données. Concrètement, on commence par où pour pas se noyer? C'est quoi la première étape?
Bah, la toute première chose, c'est de filtrer. Il faut trier, extraire ce qui est vraiment significatif par rapport à notre objectif d'enquête.
D'accord, le significatif.
Oui. Qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qu'on a pu vérifier, recouper avec d'autres sources? Il faut vraiment résister au piège classique
Lequel?
de confondre le volume et la valeur. C'est pas parce qu'on a 1000 lignes d'infos que c'est utile. Parfois, une seule info bien ciblée, bien vérifiée, elle vaut beaucoup plus que tout le reste. C'est le risque de passer à côté de l'essentiel en se perdant dans le bruit.
Je vois, filtrer pour isoler ce qui compte vraiment. Mais après, on risque pas de se retrouver avec juste une liste de faits comme ça, sans lien entre eux.
Si, justement. C'est pour ça que la deuxième étape, elle est clé. Il faut détecter les relations, les patterns, les motifs récurrents.
Ah, chercher les connexions.
Exactement. C'est pas juste lister. C'est chercher activement ce qui relie les éléments. Est-ce qu'on trouve la même adresse email sur plusieurs sites? Le même pseudo? Un nom de domaine qui apparaît dans plusieurs projets? C'est cette mise en connexion, cette capacité à voir un peu les fils invisibles entre les points d'info qui fait toute la force de l'analyse OSINT. On regarde plus les pièces isolées, mais comment elles s'assemblent.
D'accord. Et une fois qu'on a ces liens, est-ce que toutes ces infos, tous ces liens, ils ont le même poids? J'imagine qu'il faut les évaluer.
Absolument. C'est la troisième étape. Hiérarchiser l'information. Tout ne se vaut pas.
Non, bien sûr.
Il faut évaluer chaque élément. Quelle est la fiabilité de la source? Est-ce que c'est un site officiel ou un forum anonyme? Quelle est la date de l'info? Est-ce que c'est pertinent par rapport à la question initiale? Et parfois, sa sensibilité aussi.
Et comment on fait ça concrètement pour hiérarchiser?
Ben, les sources du MOOC suggèrent une méthode simple, comme un code couleur. Par exemple, bleu pour une info vérifiée, source fiable. Jaune pour du plausible, mais source moins certaine ou pas recoupée. Et rouge pour ce qui semble douteux, contradictoire ou juste invérifiable pour l'instant.
Ce code couleur, bleu, jaune, rouge, c'est pas mal pour visualiser vite fait.
Oui, ça aide beaucoup.
Mais est-ce qu'on doit aussi chercher activement ce qui cloche, les contradictions?
Ah oui, c'est fondamental. C'est la quatrième étape. Identifier les incohérences.
Ok.
Faut chercher ce qui ne colle pas. Deux dates qui sont incompatibles sur un CV en ligne. Une entreprise dite fermée mais qui publie sur LinkedIn. Un pseudo qui change complètement de style d'écriture. Ces dissonances, ces contradictions, c'est souvent ce qu'on appelle des signaux faibles. Des indices parfois discrets mais qui peuvent être très précieux. Ça peut pointer vers une erreur, une tentative de cacher quelque chose ou juste une piste intéressante à creuser.
D'accord, donc filtrer, relier, hiérarchiser et chercher les incohérences pour faire tout ça. Est-ce qu'il y a des outils simples qui peuvent nous aider à structurer notre pensée, à y voir plus clair?
Oui, heureusement, l'analyse, c'est pas que de l'intuition pure. Il y a des outils pour aider à structurer. Les sources mentionnent par exemple le mind mapping.
Ah oui, les cartes mentales.
Voilà. Avec des outils comme Miro, XMind, c'est super pour visualiser des hypothèses, cartographier des relations entre des gens, des sociétés. Et puis, il y a les bons vieux tableaux de synthèse.
Les tableurs type Excel ou Google Sheets?
Exactement. Ça reste hyper efficace pour lister, trier, comparer les données. On peut organiser par cible, par type d'info, email, pseudo, par source, par niveau de fiabilité.
Et pour visualiser ces fameux liens dont vous parliez, ces relations complexes?
Alors là, la visualisation de graphes, c'est très puissant. Le MOOC OSINTAFR cite un outil en particulier, OSINTracker V2.
OSINTracker V2.
Oui, il est présenté comme un bon compromis. Assez simple à prendre en main, mais il permet déjà de bien visualiser les entités, personnes, sites web, etc., sous forme de nœuds, et de dessiner les liens entre eux. Et surtout, on peut annoter ces liens pour expliquer notre raisonnement. Ça clarifie énormément les choses complexes.
D'accord, ça permet de raconter l'histoire visuellement.
C'est ça. Et une bonne méthode, c'est d'ailleurs de travailler par couches. On part des données brutes.
Les captures d'écran, les notes.
Voilà. Ensuite, on passe à une couche de synthèse. Les tableaux, les mind maps, pour commencer à organiser. Et enfin, on peut arriver à une structuration graphique plus poussée, avec ses graphes, pour vraiment visualiser l'ensemble. Ça aide à passer du désordre initial à quelque chose de logique.
Donc, si je résume cette partie sur l'analyse, les outils comme les mind maps, les tableaux, OSINTracker, ils aident à organiser, à visualiser, mais le cœur du travail, ça reste la pensée critique de l'analyste, sa capacité à relier les infos.
C'est tout à fait ça. Les outils sont des facilitateurs. Ils aident à gérer la complexité. Mais ils ne remplacent pas le jugement, la perspicacité. Il y a une citation dans le MOOC qui dit quelque chose comme « L'outil d'analyse le plus puissant, c'est votre capacité à relier ce que d'autres ne voient pas encore comme un tout. »
J'aime bien cette idée. C'est vraiment l'intelligence humaine qui fait la différence.
Exactement. Construire une image cohérente à partir de fragments.
Bon, mais cette valise, aussi brillante soit-elle, si on la communique mal, ça sert pas à grand-chose, non? Ce qui nous amène au rapport OSINT. Comment on s'assure qu'il soit efficace? Surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait l'enquête avec nous.
C'est le point suivant, et il est crucial. Le rapport, c'est le pont entre l'analyse et l'action, la décision.
Oui.
Donc sa forme est essentielle. Comme le soulignent les sources, il peut être lu par plein de gens différents. Un boss, un juriste, un technicien. Il doit donc pas juste lister des faits. Il doit raconter l'enquête, logiquement, et permettre de prendre une décision éclairée. Et pour ça, il y a quatre grands principes qui le guident.
Quatre principes, je crois les avoir notés. Clair, structuré, factualisé, accessible. Ça a l'air simple dit comme ça, mais j'imagine que c'est pas toujours évident à appliquer.
C'est un équilibre, c'est vrai. Prenons la clarté, langage simple. On évite le jargon ou on l'explique. Des titres clairs, des phrases courtes, droit au but.
Ok.
La structure, c'est la logique. Contexte, méthode, fait, analyse, conclusion. Ça doit permettre de comprendre l'essentiel rapidement, même en survolant.
Mm-hmm.
Le côté factualisé, ça, c'est la base. Chaque info doit être sourcée, vérifiable, lien, capture d'écran daté si possible. Et le MOOC insiste sur un point éthique. Jamais. Jamais manipuler une donnée pour qu'elle colle à une hypothèse. C'est une faute grave.
La rigueur avant tout.
Toujours. Et enfin, l'accessibilité. Le rapport doit se suffire à lui-même. Quelqu'un qui débarque doit comprendre le pourquoi, le comment et les conclusions. Le cheminement doit être transparent.
Et pour aider à appliquer ces principes, le MOOC OSINT-FR propose un modèle de structure. En quoi il est intéressant ce modèle?
Il propose une structure en 6 blocs, assez logique et complète.
Voyons voir.
Bloc 1, l'introduction. C'est quoi la mission, le périmètre, le contexte? Court et direct. Par exemple, analyse OSINT sur la société X pour évaluer les risques avant partenariat.
Simple et clair.
Bloc 2, la méthodologie. Quels outils on a utilisés, sans forcément faire une liste exhaustive, mais citer les principaux comme Spiderfoot, Sherlock, le cadre légal éthique, très important de le mentionner, et les limites de la recherche, date, source exclue.
Ok, la transparence sur le comment.
Bloc 3, les résultats. Là, c'est la liste des faits bruts, objectifs. Pas d'interprétation ici. Des tableaux, des puces, c'est bien pour la clarté.
Les faits, rien que les faits.
Voilà. Ensuite, le bloc 4, le cœur de l'analyse. Analyse et interprétation. C'est là qu'on relie les points, on souligne les convergences, les incohérences, les signaux faibles. On formule des hypothèses, mais toujours basées sur les faits d'avant. C'est la valeur ajoutée de l'analyste.
D'accord.
Bloc 5. Conclusion et recommandations. Un résumé des points clés, les points de vigilance et, si c'est demandé, des propositions d'action ou d'investigation supplémentaires. Genre, pas de risque majeur, mais vigilance sur le point X. Creuser le sujet Y.
Et le dernier bloc?
Bloc 6. Les annexes. C'est la partie preuve. capture d'écran complète, log si besoin, liste d'URL à édit de compte. Tout ce qui permet de vérifier sans alourdir le corps du rapport. C'est la mémoire technique.
Cette structure en 6 blocs me semble bien pensée, effectivement. Elle couvre tout. Et sur la forme pure, la mise en page, des conseils rapides.
Oui, des choses basiques, mais qui comptent pour la crédibilité. Orthographe et grammaire nickel. Faut relire et utiliser un correcteur. Choisir des polices sobres, lisibles, comme Arial, Calibri. Utiliser les couleurs intelligemment, sans en faire trop. Si le rapport fait plus de 5-10 pages, un sommaire cliquable dans le PDF, c'est top. Et un truc tout bête mais essentiel, versionner les fichiers.
Ah oui, pour savoir où on en est. Rapport V1, V1.1, V-final.
Exactement, ça évite les catastrophes. En bref, un bon rapport, c'est rigoureux sur le fond, clair sur la forme, exploitable et traçable. Il doit convaincre et pouvoir être audité.
Parfait. Le rapport est prêt, il est solide, mais souvent, envoyer le PDF, ça suffit pas. Il faut présenter les résultats, en réunion ou dans une synthèse encore plus courte. Là, c'est un autre défi. Comment être percutant sans noyer tout le monde sous les détails?
C'est un écueil majeur, oui. L'erreur serait de vouloir tout dire, de déverser tout ce qu'on a trouvé, même le secondaire.
Il faut choisir.
Exactement. Comme le dit une phrase du MOOC, un bon OSINTer ne montre pas tout ce qu'il a trouvé, il montre ce qui est pertinent.
Montrer le pertinent, mais comment on définit ce qui est pertinent et est-ce qu'on risque pas de trop simplifier?
La pertinence, elle se définit par rapport à l'objectif de la mission et à ce dont le destinataire a besoin pour décider. C'est pas caché, c'est hiérarchisé pour être efficace. Les détails, les pistes non abouties, ça reste dans le rapport complet pour ceux qui veulent creuser.
D'accord.
Pour la présentation elle-même, plusieurs stratégies marchent bien. D'abord, structurer par thème plutôt que par ordre chronologique. Par exemple, identité de la cible, activité en ligne, réputation, risque. Ça permet à chacun de repérer vite ce qu'il concerne.
Logique.
Ensuite, et ça c'est vraiment clé pour l'impact, utiliser le visuel. Le cerveau capte une image bien plus vite qu'un texte.
Des graphiques, des schémas.
Voilà, des tableaux comparatifs clairs, des frises chronologiques et surtout, ces fameux graphes relationnels. On a parlé d'Ossine Tracker, Kumu.io est aussi cité. Un bon graphe qui montre, par exemple, deux pseudos qui mènent au même email sur 3 forums différents.
Oui, ça parle tout de suite.
Exactement. La connexion saute aux yeux.
Le visuel, c'est puissant. Mais comment on s'assure que cette présentation plus synthétique, plus visuelle, reste crédible, rigoureuse? On ne sacrifie pas la précision.
Non, il ne faut surtout pas. La rigueur reste la base. Plusieurs points sont essentiels. Premièrement, utiliser clairement la hiérarchisation de la fiabilité. Le fameux code bleu confirmé, jaune probable, rouge à confirmer.
Le code couleur encore lui.
Oui. Il faut le reprendre dans la présentation. Ça aide le public à bien interpréter le niveau de certitude de chaque info. Ça renforce le sérieux.
C'est une bonne pratique, ça.
Très bonne. Deuxièmement, garder un langage factuel et professionnel. Pas de jugement de valeur, pas d'émotionnel. On dit 1. Le profil X est lié à Y, pas X est clairement suspect. La neutralité renforce la crédibilité. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est l'idée. Et troisièmement, même dans une présentation courte, la traçabilité des sources doit être impeccable. Chaque info clé doit pouvoir être reliée à sa preuve. On peut le faire avec des notes, des renvois aux annexes. La documentation, c'est le fondement de la confiance.
Donc, même en synthèse, on garde la rigueur sur la fiabilité et les sources.
Absolument. Pour résumer, bien présenter des résultats au SINT, c'est pas juste lister des trucs. C'est construire une histoire basée sur des faits vérifiés, hiérarchisés pour que ce soit lisible et utile, et garder une rigueur sans faille. Au final, la clarté et la fiabilité de la présentation comptent souvent plus que la complexité des outils qu'on a pu utiliser en amont.
Pour reprendre une phrase du MOOC que vous citiez, la qualité ne dépend pas du nombre de pages, mais de la clarté de chaque ligne.
C'est exactement ça.
Bon, eh bien, ça nous donne une vision très claire de tout ce parcours, de la donnée brute au rapport affiné et à la présentation percutante. On a exploré l'analyse, la structure du rapport, les clés d'une bonne présentation, tout ça grâce aux éclairages du MOOC OSINT-FR.
Et ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est qu'à chaque étape, analyse, rapport, présentation, la rigueur, méthode, la vérification, l'éthique, c'est onic, c'est primordial. Le rapport final, c'est pas juste un document, c'est un outil qui peut être stratégique. C'est le lien entre l'info et l'action éclairée.
Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour laisser matière à réfléchir. Au-delà de présenter les faits vérifiés avec leur fiabilité, comment un rapport ou une présentation peut réussir à attirer l'attention sur les zones d'ombre, sur les incertitudes critiques qui demandent une vigilance ou plus d'enquête, mais sans tomber dans la spéculation pure ? C'est quoi, au fond, la part d'art qui se mêle à la science dans cette communication si délicate du renseignement ?